Bonjour les joueuses, bonjour les joueurs. Nous sommes en février 2024 et vous écoutez une interview de Proxy Jeux réalisée lors du Festival International des Jeux de Cannes. Proxy Jeux, c'est le podcast qui vous parle de jeux de société. Je suis Cyrus et pour cette interview, je suis accompagné par Astien. Salut Astien.
Salut Cyrus.
La forme ?
Ouais, après un bon off hier soir.
Il faut le temps de se réveiller un petit peu, mais c'est bon, on en est déjà à notre deuxième café.
Oui, ça va aller.
Ça va. Et donc pour cette interview, on reçoit Mathieu Lanvin de Blue Orange. Bonjour Mathieu.
Bonjour.
Comment vas-tu ?
Bon, ça va bien.
Ça va bien.
C'est le matin, tout va bien. On est au festival, on croise plein de gens qu'on aime bien croiser, on discute, on voit des jeux. C'est toujours bien le festival.
Ouais, c'est cool, j'avoue.
J'aime pas bien. Encore trop fatigué.
On est ça va, matin. Je pense que j'ai déjà été beaucoup plus fatigué que ça un samedi de festival. Ça va, c'est l'expérience. L'expérience, ça change.
Est-ce que c'est l'expérience ou est-ce que c'est parce que maintenant que tu es directeur général de Blue Orange, disons-le quand même,
c'est vrai.
T'as plus rien à foutre.
Carrément.
Alors, je le dis clairement, en fait, j'ai beaucoup de boulot en amont et en aval. Ouais. Des festivals, mais en fait, sur le salon en lui-même, j'ai très peu de rendez-vous directs. Donc, j'ai souvent beaucoup de disponibilité sur les festivals. Ça surprend un peu les gens. Du coup, je fais ma veille stratégique, concurrentielle. Je croise du monde, je discute, je réseaute. Ça me laisse vraiment le temps de profiter sur les festivals.
C'est cool.
À être directeur, c'est aussi de déléguer des choses, n'est-ce pas? Donc, toutes les charges opérationnelles, les rendez-vous, ce n'est pas moi qui les fais.
Tout à fait. Écoute, tu sais quoi,
et mes collaborateurs font ça très bien. Donc, profite et je viens taper la discute à un micro, comme vous pouvez le constater.
Là, c'est super. Et nous, on est très contents de pouvoir t'accueillir, du coup. Alors, pour démarrer l'interview, on a un petit fil rouge. Donc, c'est une série de questions, en fait, qu'on pose à tous nos invités et qui permettent de relier les interviews entre elles.
Voilà. C'est le burger de la mort.
Pas tout à fait.
Pas tout à fait.
Il y a quand même un point commun avec le burger de la mort, si je dis pas de conneries, c'est que
les présentateurs sont très talentueux, c'est ça ?
Oui, c'est tout à fait ça.
Voilà, c'est
ça.
Exactement, c'est sûr. Alors, cette année, c'est un fil rouge emmêlé.
Okay.
C'est-à-dire que on n'est pas certain que tes réponses, les réponses que tu vas nous formuler à ce micro, vont vraiment intéresser en face des questions qu'on a formulées.
Donc vous allez me faire dire des choses que j'avais envie de dire, mais pas de cette façon-là. Ouais,
c'est la magie du montage.
On va te faire dire ce que tu voulais vraiment dire, mais que tu ne pouvais pas dire en tant que directeur général de Blue Orange.
Et que je ne savais pas. C'est bien, comme ça je vais découvrir des choses dans ma propre interview.
Exactement. Donc alors quand même, on te rassure, les bonnes réponses seront remises dans le billet de l'émission.
Il y aura
De 10-15 jours, là il y en aura un errata. Ou 10-15 jours, on laissera le temps comme ça à nos auditeurs et auditrices d'essayer de replacer les choses au bon endroit. Voilà. Normalement, tu vas voir, les questions sont faites pour qu'il y ait quand même des indices.
Oui.
Et surtout pour te faire dire vraiment n'importe quoi.
D'accord, ok.
Pour commencer ce jeu de questions-réponses, quel est ton jeu Madeleine de Proust ?
J'ai peu honte en globalement, donc il va falloir que je trouve un truc. J'ai un Monopoly Euro. Mais j'ai
tous.
Pas honte d'avoir le Monopoly Euro parce que quand l'euro est sorti, j'étais comme un foufou et je collectionnais toutes les pièces de tous les pays. Donc c'est pas spécialement une honte. Allez, on m'a offert un Twister. On m'a offert un Twister à un anniversaire il n'y a pas si longtemps que ça. Donc les gens me connaissent maintenant. Je l'ai clairement laissé sous cello. J'ai pas compris la blague. Et il est dans ma ludothèque. Hein. Moi, c'est un cadeau. C'est un cadeau. Mais je pense qu'il ne va jamais sortir de son cello.
Okay. Quel est ton genre de jeu préféré ? Ce qui fait de la
Pixies.
Veille.
Okay. Pixies chez Bombix, ils font des super DA, je trouve. Déjà depuis longtemps, mais particulièrement depuis 2-3 ans, ils prennent des risques, je trouve, et ils vont chercher vraiment des choses très chouettes. Et j'ai vu, ça a l'air d'être petit jeu de cartes malin. Bon, j'ai l'impression que c'est encore des cartes numérotées de couleur, mais avec une chouette DA. Donc je suis curieux de voir quelle est la mécanique derrière ça, en fait.
C'est quoi ton jeu préféré dans ce genre-là ?
Je pars tout seul ?
On sait pas.
C'est pas
précisé.
C'est ton choix.
C'est mon choix. Bah, le dernier jeu que j'ai embarqué souvent, tout le temps, c'est Trio, en fait.
Okay.
Donc, un peu l'évidence, peut-être réponse bateau de tout le monde ces derniers temps. Mais là, par exemple, pour les fêtes de Noël, famille, belle famille, des gens qui jouent pas forcément, tu sors Trio et c'est banco, quoi, ça marche. Donc, convaincu dès le début.
Est-ce que tu peux citer un jeu qui se trouve dans ta ludothèque et dont tu as honte ?
Les Aventuriers du Rail Europe.
Okay.
C'est très spécifique. Pourquoi le Europe ?
Ben parce que c'est le premier auquel j'ai joué. C'est un peu le jeu qui m'a fait découvrir les jeux de société contemporains. Mais c'était vraiment le... J'ai un grand frère qui a 7 ans de plus que moi et a, pour à peu près ses 29-30 ans, a demandé un jeu de société pour son anniversaire. Les Aventuriers du Rail, Europe. À l'époque, j'étais, je pense, lycée ou début, début université, et j'étais pas du tout dans les jeux de société. J'avais fait un peu de Magic au lycée, j'étais plus dans les jeux vidéo. Et donc, mon grand frère demande un jeu de société, j'avais ce truc, genre, bah, les jeux de société étaient un peu grands, peut-être, pour eux. Mais je crois que je peux trouver. Et en fait, je connaissais la boutique spécialisée à Metz. J'étais sur Metz.
Ah, bon, on les connaît bien, nous, hein. C'est notre sponsor.
Voilà, la caverne du Gobelin. Voilà. Tu vois, quand ils étaient à côté de la porte des Allemands, là, rue du Petit Watt, Grand Watt, Watt Billy, je ne sais plus laquelle, la caverne du Gobelin portait bien son nom. C'était un petit truc un peu obscur. Tu rentrais, tu dis, OK, où est-ce que j'arrive? Et ils avaient le jeu, et c'est comme ça que j'ai mis le nez dedans. J'ai joué, j'ai découvert. Puis maintenant, je suis DG. J'ai un peu de parcours depuis.
Bon, on va revenir un petit peu là-dessus. Alors maintenant, tu pars pour 3 semaines et tu ne peux prendre qu'un seul jeu. Tu prends lequel?
J'aime beaucoup Just One. Je prends beaucoup de plaisir à être l'indice de confirmation. J'aime beaucoup aller chercher, pas forcément l'indice évident,
ouais,
mais l'indice que si la personne a trouvé, elle lit mon indice, elle est sûre.
Ouais, j'aime
Par
bien
contre,
ça
si elle trouve pas, mon indice peut la perdre. C'est ça la problématique de la jouer comme ça. Mais j'aime bien cette petite exercice de subtilité intellectuelle sur ce jeu-là particulièrement. Ouais.
Bah justement, tu es invité à une soirée chez des gens que tu ne connais pas. Quel jeu ramènes-tu?
Bah, les Aventuriers du Rail Europe. Enfin, les Aventuriers du Rail, globalement. En plus d'être la Madeleine de Proust, en fait, j'ai fait des études de géographie. Géographie, aménagement de territoire. Donc, depuis que je suis petit, je suis fasciné par les cartes. Donc, un jeu de société avec une bonne mécanique, du beau matos et qui parle de géographie, ça cochait toutes les cases. Et je pense que notre ami Alan Hermoun doit très bien en vivre. Donc, je pense que j'aurais bien aimé l'inventer aussi pour cet aspect-là.
Ok. Alors, maintenant, tu avais prévu une soirée avec un méga tournoi de challengers à 8 personnes et tous tes amis t'ont fait faux bond. Vous vous retrouvez à 2, tu sors quoi?
Je suis très fan des jeux d'association d'idées. J'aime beaucoup jouer sur les mots, etc. Donc c'est des choses qui me plaisent bien. Et les jeux de ressources et d'optimisation qui ne demandent pas trop de temps. Parce que je ne suis pas fan des jeux qui vont durer une plombe. J'ai beaucoup de stratégies souvent en flux tendu. Donc quand ça devient trop de couches, j'aime pas. Mais bien optimiser sa stratégie, c'est des jeux que j'aime bien en général. Ouais.
Ok, alors partons sur les jeux d'association d'idées.
Et quel jeu aurais-tu aimé inventer?
Alors, donc si c'était des gens qui aimaient bien Challengers, j'ai jamais joué à Challengers à 2, c'est possible ça? Je suis même pas sûr.
Il me semble que oui, tu peux.
D'ailleurs, mais ça se trouve, je jouerais quand même sur le principe à Challengers en fait. Parce que sur le principe de tu construis ton deck, etc. C'est peut-être même vachement intéressant parce que tu vas devoir t'adapter à la stratégie que tu vois d'un seul adversaire. Okay. Donc ça se trouve juste pour le principe parce que des fois je suis têtu, je jouerai à Challengers avec cette personne.
À quel jeu aimerais-tu jouer en sortant de ces interviews?
Trio. Trio, c'est fort probable. Après, je prêche ma paroisse aussi, je vais souvent ramener un Takocha.
Okay.
Parce que Takocha Book Cheese Pizza, c'est un jeu qui, de la même façon, va fonctionner avec des gens qui n'ont pas l'habitude de jouer. Très facile à prendre en main, très rigolo. Kikafé aussi, dans le même genre. Bah, c'est un peu le leitmotiv chez Blue Orange, c'est justement de proposer des jeux pour les gens qui n'ont pas forcément l'habitude de jouer. Donc je vais plutôt partir sur ça.
Ok.
Eh ben, merci pour ces petites réponses pour ce fil rouge.
Avec plaisir.
On va venir à l'interview un peu et parler de toi et de Blue Orange. Donc on va parler un peu de toi, ton parcours justement, t'étais pas joueur, t'es devenu directeur général. Donc est-ce que tu peux nous raconter un peu tout ton parcours, tout ton vécu à travers ce monde du jeu?
Chez Blue Orange du coup essentiellement.
Ouais, je veux dire, on remonte pas trop longtemps.
Non.
Alors du coup en fait moi j'ai intégré Blue Orange en 2015. En tant que chargé de communication événementielle. Mon parcours avant d'intégrer Blue Orange, c'est que du coup, j'ai fait des études de géographie. J'ai intégré la fonction publique territoriale pour ma première vie professionnelle, on va dire. On va dire ma deuxième vie professionnelle parce que j'ai eu tout l'aspect animateur, formateur BAFA aussi, en background, qui m'a lié un peu au jeu aussi. Donc voilà, j'avais un boulot en administration territoriale. Je faisais des cartographies et des statistiques pour aider les élus des territoires à prendre les bonnes décisions en fonction des données démographiques, économiques, sociologiques, emploi, logement. Je vois que je suis en train de vous perdre. Donc, à côté de ça, en fait, du coup, j'étais basé à Épinal. Je développe ma passion en tant que joueur pour les jeux de société. Mon premier métier, donc je commence aussi à avoir un pouvoir d'achat. Donc, comme tout joueur passionné qui se découvre, plus en plus d'achats compulsifs, on fait grandir la ludothèque, et du coup on cherche aussi des gens avec qui jouer, parce que jouer tout seul dans son coin ça marche pas très bien. Et du coup je fais la rencontre de l'association Place au Jeu à Épinal, qui fait de l'événementiel autour du jeu, qui fait des soirées jeux à Épinal. Donc j'intègre cette association là qui crée en 2011, on va dire, 2011, le festival Jeux et Compagnie à Épinal, qui est maintenant et qui a été très vite un des plus gros. Donc on ne parle pas d'un festival à l'échelle de Cannes, hein, c'est un salon tout public, mais qui a 15 000 personnes à peu près chaque année sur le à Épinal, ce qui est beaucoup.
Ouais, c'est un des plus gros festivals du Grand Est, hein, si c'était le plus gros.
Voilà, bah, on va voir ce que des Bretzels et des Jeux vont faire. Je crois qu'ils vont peut-être faire une édition cette année.
Bah, il serait temps qu'ils s'y mettent, parce qu'on est quand même au mois de février.
Voilà, mais c'est vrai qu'on est devenu un des festivals référents du Grand Est. En parallèle de ça, en fait, un ami un jour me dit bah, « t'es fan de jeux, tout ça, mais pourquoi tu crées pas des jeux ?» Je lui dis bah, « c'est pas si simple », mais il a planté la petite graine, en fait. Donc ça, j'ai commencé à créer moi-même des jeux, m'inscrire au concours de Boulogne-Billancourt. J'ai eu la chance de remporter deux fois le concours de Boulogne-Billancourt avec deux jeux. J'ai commencé à rencontrer les éditeurs du coup sur les différents salons. C'est là que j'ai commencé un peu à faire un réseau. Donc le Festival de Cannes, ça fait plus de 10 ans que j'y vais, mais j'y allais avant à titre pas professionnel. Et j'ai rencontré Blue Orange, notamment en m'occupant du relationnel éditeur avec le salon de jeux et compagnie. Donc je connaissais Timothée Leroy par ce biais-là.
Okay.
Timothée Leroy, le fondateur de Blue Orange à Pont-à-Mousson. Et donc, bah, ma passion prend de plus en plus de place. Mon métier, je commence à faire un peu le tour de mon sujet de travail. Et j'ai l'opportunité en 2015, je vois une petite annonce en fait. C'est même pas une petite annonce, c'est un article dans la presse locale. C'est un ami qui m'envoie ça, il me dit « Ah, bah, regarde, ça va t'intéresser ». Et en gros, c'était dans l'Est républicain, portrait de la petite entreprise qui monte, c'est un truc comme ça le titre. Donc une interview un peu de Timothée Leroy qui expliquait que bah, ça se passait bien, ils avaient aménagé dans des nouveaux locaux et ils cherchaient à recruter. Je sais absolument pas dans quoi, donc je contacte Timothée, je dis « Ah, j'ai vu l'article, chouette article Tu recrutes qui ?
Tu recrutes dans quoi ? Cherche quoi ?
Parce que bon, si c'est pour femme de ménage ou compta, ça va pas le faire, mais on sait jamais, quoi. Et donc, il me dit, bah, on cherche quelqu'un à la communication. Je dis, bah écoute, moi, je suis pas du tout formé professionnellement à la communication, mais je m'occupe de la communication du Festival de Jeux et Compagnie. Je faisais déjà les interviews, les présentations télé, des choses comme ça. Il me dit, ah bah ouais, bah, on peut se voir, est-ce que tu viens à SN ? Et donc, en fait, je lui dis, bah oui, comme chaque année, je vais à SN aussi à titre semi-pro parce que je présentais mes jeux en tant qu'auteur. Donc, on se voit une première fois à SN à l'hôtel. On refait une deuxième, ça se passe bien, on se fait un deuxième entretien à Pont-à-Mousson. Et donc, j'intègre en décembre 2015, quitte la fonction publique territoriale, mise en disponibilité, et je deviens chargé de communication d'événementiel. Donc, on arrive au début de la question que vous m'avez posée.
ouais, ça va.
Voilà, j'arrive, on est 6 ou 7 chez Blue Orange, donc
petite structure.
Alors, le groupe Blue Orange fonctionne un peu différemment de tous les éditeurs. Peu de notions de groupe à l'époque. Il y a une antenne aux États-Unis depuis 2000. C'est un peu la première qui a été créée. Quelques années après, il y a Blue Orange Édition qui a été créée. Donc, qui est en quelque sorte le service recherche et développement. D'habitude, il est intégré vraiment à l'entreprise elle-même. Là, c'est une autre entreprise. Ouais. Thierry qui a créé ça.
Thierry Denoil
qui a créé Blue Orange aux États-Unis. Et qui s'est dit, ben, au début, ça a édité les jeux de Thierry, juste de Thierry. Il s'est dit, ben, j'ai besoin d'alimenter, il faut que je trouve d'autres jeux. Donc, je commence à faire du sourcing, à avoir des chefs de projet qui bossent dessus. Blue Orange à Pont-à-Mousson naît en fait de la fusion entre Jacques Talea, qui a été créé par Timothée Leroy, et Jalal Amarosa en 2005. Et la rencontre avec Thierry Denoil à Essen, elle s'était faite à Essen. Où en gros, Thierry cherchait à implanter Blue Orange aussi dans le reste du monde, pas qu'aux États-Unis. Je fais la version très courte. Voilà, ils se sont rencontrés à Tom Crochu sur le jeu tactique de joueurs abstraits, parce que Timothée et Jalal éditaient les jeux de Claude Leroy à la base. Association, ils créent Blue Orange à Pont-à-Mousson en 2013. Donc voilà, moi quand j'intègre en 2015, au final...
C'était déjà Blue Orange. Hein.
C'était déjà Blue Orange. Et entre guillemets, ça n'avait que 2 ans d'existence en tant que Blue Orange.
Oui.
Je dis ça parce qu'en tant que chargé de com, moi je suis arrivé avec Blue Orange en France en 2015. À part les gens qui faisaient les salons Gencon ou des choses comme ça, Blue Orange, ça ne parlait pas. Vous demandiez un jeu Blue Orange à un joueur inconnu au bataillon.
On invite les auditeurs et auditrices qui sont intéressés par toute cette genèse. En fait, on avait interviewé Timothée Leroy fin d'année 2019, je crois que c'était en décembre. Donc on a une interview longue avec Timothée, il nous raconte un petit peu toute cette genèse. Et là on va embrayer un peu plus avec toi sur la suite. Puis tu peux nous parler donc de la suite de ton parcours chez Blue Orange. Donc tu as été chargé de communication.
Ouais, ensuite... donc je suis chargé de communication et très rapidement en fait responsable de communication événementielle. Donc à gérer les différents salons, gérer les partenariats presse, etc. Il y a un premier gros jalon, ouais, les enfants arrivent sur le festival.
Le volume sonore augmente.
On a une bombe à retardement et un petit bébé qui se promène juste derrière. Voilà. Ça, il s'écarte. Va jouer à Dixit. Du coup, premier jalon, en 2017, je me plante pas sur 2017, en fait, King Domino. Donc King Domino remporte, est nommé à l'As d'Or et remporte le Spiel des CRS 2017. Donc gros impact économique
pour
la boîte.
Ça explose d'un coup, quoi.
Donc voilà, en 2017, on doit être une dizaine ou une douzaine de personnes à tout casser. Ben le chiffre d'affaires que génère King Domino et la croissance de la boîte font qu'on embauche de plus en plus de personnes. Donc l'équipe grossit de mon côté au niveau de communication événementielle. Et en 2018, donc l'équipe continue de grossir et on se rend compte qu'au niveau de l'éditorial, on a vraiment une marge d'amélioration à avoir. Par marge d'amélioration, j'entends que, en fait, moi, en tant que responsable communication événementielle, j'étais chargé des fois de relire les règles avant qu'elles partent en production. Et ben, avec mon petit background d'auteur de jeu, je voyais des choses qui me faisaient un peu dresser les poils. En mode, ouais. Là, c'est censé partir en prod, mais c'est pas possible, quoi. Une règle de 4 pages, il y a 10 erreurs, il y a des choses qui vont pas dans le process. Donc, d'un commun accord aussi avec la direction, on se dit qu'il faut qu'il y ait un poste éditorial à Pont-à-Mousson. Parce que, comme je vous l'ai dit, Blue Orange Édition, en fait, est basé en Normandie. C'est un service, c'est une entreprise à part. À Pont-à-Mousson, à ce moment-là, il y a personne qui s'occupe à plein temps de l'éditorial. Donc, on crée mon poste de chargé de mission éditorial, en fait. Avec pour vocation d'être un peu la personne référente à Pont-à-Mousson qui est en contact avec les chefs de projet, de la sélection des jeux, au développement, etc., etc. Et en fait, de fil en aiguille, donc là on est en 2018-2019, on se pose les bonnes questions, on monte en compétences, je passe en responsable éditorial, je propose des choses pour dire ok, on va essayer de cadrer un peu les choses, le process, comment on fait à partir du moment où on sélectionne un jeu, comment on sélectionne un jeu. Il y a un gros chantier qui a été fait sur qu'est-ce qu'on met en place comme méthode de travail pour dire ok, on veut ça. Quelque part, c'est quoi la ligne éditoriale de Blue Orange ? Se poser les bonnes questions aussi. À l'époque, on sortait énormément de jeux. Je n'ai pas peur de le dire. C'était un des principaux reproches. On a carrément fait, en fait, une enquête auprès du milieu. Donc, on a appelé des ludicaires, on a appelé des concurrents, on a appelé des auteurs de jeux, on a appelé des joueurs, on a appelé un peu tous les pans de métier du milieu pour leur dire bah, qu'est-ce que vous pensez de Blue Orange, en fait ? Pour vous, Blue Orange, en tant qu'éditeur, c'est quoi ? Quelle est la principale qualité que vous voyez chez Blue Orange et quel est le principal défaut? Parce que ben, c'est en regardant les défauts et en essayant de les changer qu'on s'améliore. Et c'est revenu plein pot, vous sortez trop de jeux. Concrètement, 2018-2019, je pense qu'il y a une année, on a sorti 25 jeux dans l'année. Sachant qu'on est un éditeur qui fonctionne majoritairement du développement en interne. C'est-à-dire qu'on a plus de 80% de la line-up, c'est des jeux qu'on a sourcés auprès de l'auteur, qu'on a développés nous-mêmes. L'opposé, c'est les localisations. On prend un jeu qui est déjà fait par un éditeur, et du coup, le travail est complètement différent. A priori, la mécanique, la règle du jeu sont réglées, on va peut-être changer un peu le boîtage, mais c'est pas du tout le même travail. Donc, on sort trop de jeux, et du coup, il y a à boire et à manger. C'est-à-dire que comme ces jeux, on a 3-4 chefs de projet, ben, sur un an de travail, bosser sur 25 jeux, c'est très fluctuant. Au niveau de la communication, pour y avoir travaillé, bah, c'est un jeu qui sort toutes les semaines ou toutes les deux semaines. L'un chasse l'autre. Et au final, qu'est-ce qu'il en ressort? À niveau égal, il y en a qui passent, il y en a qui passent pas. Il y a des jeux très bons qui sont noyés dans la masse parce que les trois qui sont sortis avant n'étaient pas assez bons. Donc voilà, clairement, ce constat, on sort trop de jeux, on passe pas assez de temps. Donc on s'est dit, on change de levier, on va faire moins de jeux, mais on va consacrer plus de temps, plus de moyens pour les développer, les chouchouter, les sélectionner, parce que forcément, bah, faire deux fois moins de jeux, c'est augmenter les critères de sélection et avoir plus de moyens pour les défendre individuellement chacun aussi. Donc là, on est en 2018. Petit à petit, on met en place les méthodes de travail pour cadrer. Qu'est-ce qu'on va mettre en avant ? Donc, on a redéfini la ligne éditoriale. Maintenant, c'est quelque chose qu'on affiche régulièrement. C'est bienvenu dans le monde du jeu. C'est l'idée que si vous êtes non-joueur, dans le sens non-joueur contemporain, hein, jeu de société contemporain, prenez un jeu Blue Orange, on vous accompagne. C'est facile à découvrir, c'est facile à prendre en main. Il y a de la nouveauté, il y a de la qualité, c'est frais, vous allez passer un bon moment. Voilà, c'est le message qu'on veut envoyer aux personnes. Et de la même façon, si vous êtes déjà joueur, vous connaissez les jeux de société contemporains, mais bah voilà, vous avez envie de jouer avec la belle famille, avec vos enfants, faire découvrir à des potes qui sont pas joueurs, prenez un jeu Blue Orange. Voilà, c'est un peu clé en main, que des bonnes surprises normalement. Et voilà, après on accompagne les gens dans leur parcours de jeu. On crée des nouveaux joueurs et s'ils veulent aller plus loin, on leur lâche la main. Allez voir les autres éditeurs, les jeux initiés, les jeux experts. Il y en a plein qui font ça très bien, il y en a plein qui font ça mieux que nous. On n'a pas peur de le dire, c'est pas notre cœur de cible.
Et du coup, votre slogan là, bienvenue dans le jeu de société, ça t'a dit ?
Oui, c'est ça.
Ça, ouais. Ça va être du garantie 100% satisfait remboursé ou... Alors, vous n'êtes pas encore là-dedans ?
On n'en est pas jusque-là, mais on a constaté que derrière les mots, parce que voilà, c'est toujours facile de balancer des grandes taglines, derrière ça, on a vu un vrai changement de l'image perçue de Blue Orange. Parce que bah déjà, on sort deux fois moins de jeux, notre croissance est plus grande. Donc le choix stratégique de se dire on fait moins de jeux, on les fait mieux, on les défend mieux, n'a pas mis en péril la boîte. Parce que Blue Orange, c'est un éditeur qui travaille beaucoup à l'international. On a 80% de notre chiffre à l'export. On bosse dans plus de 60 pays avec plus de 80 partenaires. La stratégie précédente qui était d'avoir beaucoup de jeux, c'était aussi pour pouvoir alimenter nos différents partenaires. Il y avait de la demande. Quand on sortait 25 jeux dans certains pays, les 25 jeux étaient pris et on n'avait plus de jeux à présenter à certains distributeurs. Mais voilà, on en est revenu. On s'est dit, on se met entre guillemets en danger, on va en sortir moins. On dit que si on les fait mieux et qu'ils sont meilleurs, ça va le faire. Et ça l'a fait. Donc, je ne sais pas si on a un taux de satisfaction à 100%, mais de toute façon, c'est de la création. Et d'autant plus, nous, on fait beaucoup de développement interne. Il n'y a pas de vérité, il n'y a pas de science infuse. Si c'était facile, tout le monde le ferait. Des fois, il y a des choses qui prennent, des choses qui ne prennent pas. Mais globalement, on a senti...
Globalement, vous y retrouvez, quoi.
On s'y retrouve.
Et voire même, comme tu dis, la croissance continue.
Voilà, on est en croissance, ce qui n'est pas le cas du marché, je crois. Enfin, les chiffres que j'ai eu récemment, c'est que c'est plutôt stagnation, voire petite baisse. Il y a des éditeurs en difficulté, etc. Donc voilà, nous, on est content de bien se porter dans un contexte qui n'est pas... c'est pas la joie, hein. Regardez le 20h et vous aurez tout ce qu'il faut au niveau des infos sur le climat ambiant.
C'est ça. Ou surtout ne le regardez pas.
Voilà. Si vous voulez garder le sourire, écoutez Proxy Jeux. C'est maintenant qu'il fallait le caser. Donc, du coup, voilà. Je passe un peu de responsable éditorial parce qu'au final, je chapeaute un peu tous les chefs de projet sur tous les projets, de la sélection, le lancement, le choix de la DA, etc. Les choses sont déléguées, mais voilà, c'est un peu moi qui suis le processus et qui m'assure aussi. On tient les deadlines aussi, parce que dans les méthodes de travail, s'il y a des zones d'encombrement avant Essen, avant Nuremberg, etc., donc là, étaler un peu plus les charges de travail de chacun tout au long de l'année, c'est aussi moins de stress aussi, etc. Enfin, on est presque déjà dans du management sur ce genre de choses. Mmh. Et ben quand c'est bien fait, que les gens ne travaillent pas sous pression, aussi, le travail est de meilleure qualité globalement. Et donc, on arrive tout doucement en 2023. Donc en 2023, je suis directeur éditorial, tout se passe bien, les projets continuent, on s'améliore, etc. Et un jour, Timothée et Jalal me convoquent dans leur bureau, donc les deux chefs me convoquent.
Oh là, putain, là ça va chier.
C'est clair. Alors, il y a toujours ce petit moment en mode, est-ce que j'ai quelque chose à me reprocher là maintenant, là tout de suite?
Tu fais la liste de ce que...
Voilà, et je me dis, non, là je suis confiant. Mais par le passé, ça m'est déjà arrivé de dire, non, je suis confiant et d'avoir... Ok, j'avais fait un truc que j'avais pas vu, ok, bon, d'accord. J'y vais quand même plutôt confiant. Et donc ils me disent écoute Mathieu, on a quelque chose à te proposer, donc voilà, t'es responsable éditorial, on aimerait bien que tu montes en compétence. C'est un discours qu'ils m'ont toujours donné, hein. De fait, j'ai commencé chargé communication événementielle, j'arrive responsable éditorial, ils ont toujours été réglo et clair là-dessus, c'est très confort de bosser avec eux là-dessus. Et voilà, ils disent on aimerait te faire monter en compétence, donc je m'y attendais un peu sur l'aspect éditorial. Ils disent voilà, est-ce que tu serais partant pour co-diriger la boîte? Et en fait, quand on connaît Tim et Jalal, on se dit pas en fait la place va être vacante. C'est-à-dire que presque mon réflexe c'est de dire vous voulez faire quoi?
Ouais.
Vous partez, c'est quoi le... Donc en fait non, ils m'expliquent qu'ils ont la volonté de monter d'un cran effectivement, mais pour bosser sur le groupe. Okay. Bon, j'ai pas refait l'historique, mais il y a aussi Tribio qui a été créé entre temps pour distribuer.
On en parlera juste après.
Ils veulent consacrer du temps et de l'énergie à avoir un peu une dynamique de groupe. Donc Blue Orange US, Blue Orange Edition, Tribuo, Blue Orange. Et pour développer ces dynamiques, les synergies et bosser là-dessus, faire des croissances externes, il faut se dégager du temps. Et pour se dégager du temps, il faut sortir de l'opérationnel. Et pour eux, l'opérationnel, c'était gérer la boîte à Port-à-Mousson où maintenant on est 25. Donc c'était de dire, ok, nous on veut faire d'autres choses. On veut partir sur d'autres projets. La Blue Orange, ça roule. On veut confier les rênes. Et donc ils me disent, on veut le confier à Anastasia Stylianou et à toi. Anastasia Stylianou, elle est arrivée peut-être un an après moi, en tant que commercial international. De la même façon, elle est vachement montée en compétence, en fait. Donc, elle est devenue vite figure de référence au sein du pôle commercial. Elle gérait aussi beaucoup la production, donc tous les contacts avec les usines, les négociations de devis, les négociations de transport, etc. Donc, voilà, elle abattait déjà une charge de travail énorme. Donc, elle correspondait plus au côté rigueur, financier, business, etc. Ouais. Et donc l'idée de créer un binôme avec moi, c'était moi d'avoir plus la partie un peu comme Timothée, sur voilà, côté éditorial, créatif, représentation. Donc l'idée d'avoir un binôme aussi complémentaire pour prendre le relais de Timothée et de Jalal.
Je me permets de préciser quand même qu'on avait invité Anastasia avec toi.
Hein, c'est ça.
Et malheureusement, du coup, elle n'est pas venue sur Cannes, c'est ça ?
Elle n'est pas venue sur Cannes. Ouais. Et en fait, je l'ai chambré un peu régulièrement parce que je crois qu'elle n'est jamais venue à Cannes.
C'est vrai ?
Ouais. Ah oui, carrément.
Ah, c'était l'occasion, là.
C'était vois, l'occasion.
Elle était invitée chez Proxy, je crois.
Je dis, c'est sûr. Au moins, les As d'Or, on s'en fout, mais quand même, l'interview Proxy Jeux. Mais en fait, c'est assez révélateur du binôme complémentaire. C'est-à-dire que Anastasia, voilà, c'est quelqu'un qui est sur le business international, sur la production. Donc, c'est très export, etc. Les salons, c'est moins son domaine. C'est pas, je l'aurais sûrement taquiné. Elle aurait pas été à l'aise du tout devant le micro. voilà,
c'est
qu'est-ce
une
que
personne
je
de l'ombre.
Voilà, mais qui a bas une charge de travail. Enfin, moi, vous me mettez devant. Je m'en sors un tableur Excel justement par rapport à mon passé. Mais voilà, quand il s'agit de calculer des marges, des taux de conversion, les bénéfices, les stratégies, c'est pas c'est elle qui va gérer tout ça.
Du coup, vous restez quand même sur des tâches très définies l'un l'autre. Vous n'essayez pas de monter en compétence dans les tâches de l'autre aussi ?
Inévitablement, si un peu, parce que l'idée, c'est d'avoir du coup une direction partagée. Ouais. Donc, on a chacun nos services desquels on est directement le manager ou la manageuse. Donc, sur les prises de décision, on va quand même se coordonner. Parce que l'idée, c'est justement d'avoir deux points de vue différents. C'est ce qui a marché avec Tim et Jalal. C'est qu'ils sont très différents, mais du coup, sur un sujet donné, avoir deux éclairages, discuter, argumenter et aller vers ce qu'on pense être la meilleure solution. Donc, on essaie de reproduire ça un peu avec Anastasia. Se dire, OK, les problématiques là, moi, j'en pense ça, toi, t'en penses ça. Qu'est-ce qui est le plus pertinent ? Notamment, elle a récupéré le management de l'équipe communication événementielle. Dans l'objectif d'être encore plus en lien avec l'aspect commercial, parce que ça peut des fois fonctionner un peu
en vase clos,
un peu séparé, mais on a besoin de passerelles pour que ça marche. Et donc, moi, forcément, je vais pas rester en mode, c'est ton équipe, tu t'en occupes. La communication et l'événementiel, j'y ai bossé, j'étais responsable. Donc voilà, un salon comme... si la responsable événementielle arrive et a des questions spécifiques sur un salon, elle va d'abord demander à Anastasia ce qu'elle en pense. Anastasia va me demander à moi, parce que les salons, je les ai vécus. Donc voilà, c'est pour ça que j'aurais bien aimé qu'elle soit à Cannes, peut-être l'année prochaine. Si elle vient l'année prochaine à Cannes, je vous recontacte et on fait l'interview à deux.
Ok, très bien. Et concernant du coup, effectivement, cette évolution dont tu nous parles du groupe d'Orange, effectivement, on a noté des changements assez importants, outre le fait de changer de couple de directeurs généraux. On a vu la création de Tribuo, un distributeur, en 2022, si je ne dis pas de bêtises.
C'était 2022 ou 2021
à la limite, peu importe, mais la structure a dû se monter peut-être en 2021, mais être vraiment active en 2022, quelque chose comme ça.
Pour moi, j'ai un août. Si, 2021. Ouais, 2021.
Okay. Et alors, pourquoi du coup créer une branche de distribution ? Ça se passait pas bien avec BlackRock ?
Alors, en fait, l'idée, c'était de reprendre le contact avec les boutiques. Timothée et Jalal ont commencé avec Jacques Talia, ils aimaient bien, ils s'occupaient eux-mêmes des trucs, l'aspect commercial, etc. Et le constat aussi, nous on grossissait, du coup BlackRock, c'est un distributeur qui a énormément d'éditeurs à son catalogue, on était parmi les plus gros éditeurs du catalogue, et on sentait aussi qu'on arrivait peut-être aux limites de ce modèle-là, c'est-à-dire pour nous, à avoir une croissance plus aboutie sur le marché français, on voyait plus trop comment ça pouvait évoluer avec BlackRock à ce moment-là.
Est-ce que le feu aussi le rachat par Hachette, ça rentre en ligne de compte un petit peu dans la réflexion ?
Dans la chronologie, je ne sais même plus si c'était avant.
Juste avant.
J'étais pas dans ces prises de décision-là, donc je ne pourrais pas vous dire en détail. Mais il y a toujours eu cette volonté de un jour s'y remettre. Le contact boutique, le contact de proximité, c'est vraiment quelque chose qui a toujours tenu à cœur à Timothée et Jalal. Et pouvoir retravailler ça leur plaisait beaucoup. Et du coup, un peu plus contrôler la façon dont vous êtes représenté sur les salons, auprès des boutiques.
Et vous étiez aussi arrivé peut-être à un stade où c'était possible, avec King Domino en particulier, non ?
C'est ça.
Pour rappeler un petit peu comment ça se passe côté boutique, une boutique, elle va pas passer des commandes à un distributeur. Enfin, ça dépend du distributeur, en fait, quoi.
Oui, c'est ça.
Il faut que le catalogue soit suffisamment fourni pour
atteindre les francs de port, les commandes assez régulières, etc. Ouais. Effectivement, il faut avoir un catalogue assez conséquent.
Avoir des locomotives telles que King Domino, des jeux que tu approvisionnes effectivement régulièrement.
C'est ça. King Domino et celui qu'on connaît moins, quand même, c'est Takocha Book Cheese Pizza. On connaît moins, c'est logique, parce que pour le public de joueurs passionnés, Takocha Book Cheese Pizza a encore un jeu de rapidité observation. Voilà, ils l'ont vu, ils font OK, ça marche. Les gens ont quand même plutôt aimé, mais voilà. Mais les gens se rendent pas compte, c'est que presque entre guillemets, Takocha Book Cheese Pizza nous fait vivre à l'heure actuelle.
Plus que King Domino ?
Là au pif, dites-moi, à votre avis, monde hors US, combien Blue Orange vend de Takosha Bukchis Pizza par an?
Par an.
Ah, avec ce que tu viens de nous dire, ouais. on va quand même taper un petit peu haut. En monde quand même. Ah, c'est
monde,
chaud.
Ouais, c'est ça. En fait, monde, je vois.
Allez,
pas.
100 000.
On vend 1 million de Takosha Bukchis Pizza dans le monde par an. Donc
j'aurais tapé comme Cyrus en vrai.
Voilà. Donc 100 000, ça doit être pas loin du chiffre France. Je crois
France, du coup, ouais.
Ouais.
Ah ouais.
Ah pardon,
d'accord.
C'était ça, sur France, évidemment.
Bien sûr. Donc c'est vraiment un phénomène en fait. À la base, je vous ai dit, nous on fait beaucoup de développement interne. Là pour le coup, on a récupéré les droits de Takosha Bukchis Pizza en 2019, je crois 2020. C'était un Kickstarter aux États-Unis.
Ouais.
J'en rigole souvent parce que en fait. La page est toujours dispo. Il y a eu un truc genre 117 backers et il a touché 1500 $, tu vois.
Ah d'accord, ouais, parce que
il a fait sa petite auto-édition et en fait il a commencé à avoir une stratégie sur Amazon. Et en fait il a commencé à vendre le jeu sur Amazon, ça se passait très bien. Nous l'antenne US a repéré ça, a contacté le gars et en fait on a négocié les droits monde. Depuis ça a explosé aux US parce que quand je vous dis 1 million c'est hors US, lui tout seul aux US par an, il en vend quasiment 1 million aussi.
Ah ouais, d'accord.
C'est le top 1 Toys and Games sur Amazon.
C'est ouf.
Ouais. C'est l'image qu'on aurait de nous Double.
Ouais.
En France, totalement. L'image de Double, tu dis, ça se vend comme des petits pains, c'est un top, etc. Ça se vend tout seul. Bah voilà, Taco Cat Bukchis Pizza aux US, c'est ça. Et donc, en fait, ce phénomène, nous, on le réimpacte sur tous nos partenaires à l'international. C'est en train de percer en France. C'est toujours des démarrages un peu lents. Et après, ça finit par percer un peu le plafond de verre. C'est-à-dire que dans le milieu du jeu de société, on touche toujours le public passionné à la base. En fait, on a un vrai phénomène avec Takosha. C'est que peu importe le marché, entre guillemets, il va aller toucher la couche au-dessus. Donc plus large, plus de monde et des gens qui jouent pas forcément. Il y a des anecdotes. Timothée nous racontait une fois, il était dans une soirée avec des gens qui n'étaient pas du tout joueurs, il y avait un avocat. Ils discutent avec l'avocat, ils échangent. Le mec dit toi, tu fais quoi ? J'ai dit des jeux de société. L'avocat dit moi, je déteste ces jeux de société. Par contre, il y a un seul jeu qu'on a chez nous, on y joue tout le temps. C'est Takosha Bukchis Pizza. Et là, Timothée sort le jeu de sa poche. C'est nous qui le faisons. Et donc, c'est vraiment des gens complètement extérieurs commencent à connaître Takosha Bukchis Pizza. Donc voilà, ça explose un peu partout, c'est encore en pleine croissance, ça va continuer d'exploser, du coup c'est largement devant King Domino à l'heure actuelle.
D'accord, okay.
Ah, mais on revient sur votre slogan de toute façon, bienvenue dans le monde du jeu.
En plein dedans.
C'est quoi vos autres locomotives chez Blue Orange aujourd'hui ?
Alors les principales locomotives, on a Takosha Bukchis Pizza, la gamme, parce que du coup on a développé aussi d'autres itérations du jeu. On a.
Sans nous les citer, tu serais capable de les citer
toutes les itérations.
Ouais. Il y en a combien?
Oui. Alors qu'on a fait nous, parce qu'aux US ils en ont fait une flopée aussi. Donc on a Takosha Bukchis Pizza qui arrive en premier. Taco, chapeau, gâteau, cadeau.
Ne les cite pas, mais. C'est juste
taco,
pour,
je bosse à l'éditorial, monsieur. J'ai travaillé sur ces projets.
Connais tout.
La difficulté avec toutes les itérations, c'est qu'on utilise aussi dans notre. On a une offre, on a un service de jeu entreprise.
Ah oui.
Donc, c'est aussi un jeu qui est très facile à décliner pour personnaliser auprès des entreprises.
Ouais. Ouais.
Donc, en fait, on a un Takosha Center Parks, on a un Takosha du Racing Club de Strasbourg, un Takosha d'un truc d'immobilier.
Okay, en fait, il y en a plein.
Voilà. C'est des petits tirages à chaque fois, mais le jeu d'entreprise, le goodies d'entreprise, ça fonctionne bien aussi.
Donc, on était sur les locomotives.
Les locomotives, et moi, on a la gamme King Domino.
Ouais.
À l'heure actuelle, on a sur Dragomino, en fait, dans la gamme King Domino, qui s'installe vraiment très, très bien. Qui avait fait le doublé Asdor Enfant et Kinderspiel, et qui s'installe vraiment durablement pour un jeu enfant, fait des chiffres de vente très, très intéressants. Et après, on a d'autres jeux. Bon, en fait, on a des jeux qui s'inscrivent longtemps aussi sur le catalogue. On a du Kikafé qui est sorti nommé Asdor Enfant 2019, si je dis pas de bêtises, et qui se vend encore très bien dans le monde. Goblet Gobblers, des Docteur Eureka, des Gogo Gelato, des choses qui sont au final sorties il y a longtemps, mais qui s'installent.
Ouais, mais qui restent et qu'on voit toujours effectivement en boutique et tout ça.
Voilà, et c'est ça qui est intéressant aussi pour un éditeur, c'est d'avoir une nouveauté qui cartonne, c'est bien, mais si elle ne s'installe pas sur la durée, c'est compliqué d'avoir les pieds solides en fait, pour continuer à avancer. Et là, on a la chance d'avoir une grosse locomotive et même d'en avoir plusieurs.
Et chez Blue Orange, du coup, maintenant, vous avez, comme tu disais, vous êtes un groupe, vous avez des éditeurs en dessous de vous. Que vous avez racheté, vous avez fait un rapprochement avec Le Droit de Perdre.
C'est bien ça.
Qui est devenu Banjo aujourd'hui.
C'est ça. Donc en fait, le Droit de Perdre devient Banjo et devient du coup le premier studio du groupe Blue Orange. Bah pareil, c'est des longues histoires de relationnel et d'amitié. On veut vraiment être un groupe à échelle humaine. Blue Orange, voilà, ceux qui m'ont croisé, qui ont croisé Timothée, et voilà, on est très dans le, on va avant tout bosser, être content d'aller bosser, et de bosser avec des gens avec qui on se sent bien. Et du coup, donc le droit de perdre, on bosse sur leur export depuis longtemps. Timothée et François se connaissent depuis plus de 15 ans. Donc déjà à l'export, ben on bossait avec lui. Et donc là, le rapprochement s'est fait pour un peu rechanger aussi l'image de marque, un peu de le droit de perdre. Il est arrivé au bout d'un cycle, le droit de perdre, un peu avec une image un peu party game, un peu intello, mais pas trop, intello absurde qui collait un peu à la peau avec du coup voilà un jeu de droit de perdre. Est-ce qu'il est pris sérieusement quand il sort? C'est toujours la difficulté. Reprendre un peu tous les classiques. Donc la gueule va ressortir sous Banjo avec une remodernisation un peu de la DA et du gameplay un peu plus dynamique. Et voilà la volonté good vibes only. Ben Banjo en fait c'est une contraction de bande joyeuse.
Ok.
Et voilà il y a le logo, c'est un petit feu de camp. Good vibes only, c'est vraiment voilà. On va prendre du plaisir tous ensemble autour d'un moment de jeu. On va retrouver un peu les aspects le droit de perdre, se dire au final on gagne, on perd, on s'en fout un peu. C'est
on
pas
est là pour se marrer,
on est là pour se marrer. Et donc le premier jeu qui va sortir ça, sous Banjo s'appelle Link City. On va construire une ville tous ensemble avec de l'association d'idées. On a le poissonnier, où est-ce qu'on va le mettre par rapport au potier ou des choses comme ça. Il y a des bâtiments plan-plan, mais il va y avoir aussi l'ambassade extraterrestre, le siège du parti de l'extrême droite, la mosquée. Les gens font les associations d'idées qu'ils veulent. Et voilà, c'est vraiment la discussion qui va se créer autour. Et il va localiser aussi Surfosaurus Max. Alors, ceux qui ont suivi ASN ont peut-être vu ce petit jeu complètement farfelu en termes de DA. C'est littéralement des dinosaures qui font du surf. Hein.
Ah, donc, mais oui. Il voilà. Y a des gens de l'équipe qui en ont parlé, je
D'accord.
crois.
Il suffisait de le dire. Ça agresse l'œil. Donc, ouais. Forcément, si vous êtes allé à Essen, ouais. Vous l'avez vu.
Ouais. Bah, ils n'ont pas pu venir à Cannes, hein. Ils sont encore en chirurgie là.
Il a la marée basse. et du coup, voilà, il va faire un gros travail éditorial dessus. Il va avoir des super cartes. Les cartes vont être découpées en forme de planches de surf. Enfin, voilà, ça okay. S'annonce très sympa aussi. Et donc, voilà, ça s'est fait très naturellement. Donc, en fait,
c'est un rachat, c'est une fusion.
C'est plus une fusion.
Une fusion.
Ouais, c'est une fusion en gros.
Ça veut dire quoi concrètement? Que eux ils ont des parts aussi un petit peu dans Blue Orange?
Non, c'est plutôt Blue Orange à des parts dans. Ouais, okay. Donc c'est la société Long Live au niveau de l'administratif, quoi. Mais voilà. Okay. Donc c'est Blue Orange a pris des parts dans la société de François pour créer, pour créer Banjo.
Après le reste, c'est des marques Banjo, tout ça, c'est de la marque, quoi. C'est pas les noms des entreprises derrière.
Oui, c'est ça. C'est okay. Exactement ça. Et du coup, toutes les équipes Blue Orange, en fait, l'idée, c'est qu'à Pont-à-Mousson, ça va être un peu le siège du groupe.
Ouais,
parce
du groupe,
que c'est l'entité la plus grosse qui fait le plus gros chiffre d'affaires. Mmh. Et où, du coup, on a réuni pas mal de compétences dans les différents corps de métier. Donc voilà, en fait, maintenant, sur Banjo, la com de Banjo, c'est l'équipe com de Blue Orange qui s'en occupe. Au niveau de l'éditorial, moi, je vois François en vidéo toutes les semaines pour voir comment ça avance sur les projets. On se donne nos avis, on échange et on avance comme ça, quoi.
Ça veut dire qu'il y a des gens de chez Banjo qui vont quitter leur emploi ou...
Il est tout seul chez Banjo.
Il est tout seul? D'accord, ok. Ah, parce que quand tu parles d'équipe de communication, tu vois...
Oui, oui. L'équipe de communication Blue Orange,
oui,
du coup, fait la communication.
Mais il n'y avait pas quelqu'un chez Banjo qui le faisait, quoi. Ouais, c'est
non,
ça,
non.
Ok, d'accord.
Non, il était tout seul. Il avait un associé, mais qui allait refaire un autre métier aux États-Unis, scénariste ou quelque chose comme ça. D'accord. Fabien Olive. Et puis sur son nom de famille. On ne sait jamais les noms de famille, des fois. On retient les prénoms. Et François est tout seul. Oui.
Donc du coup, vous avez l'intention de faire un groupe. Je crois comprendre que du coup, vous avez sûrement des vues sur d'autres studios. Je pense à Macaca Édition, par exemple. Est-ce que je sais qu'il y a des liens entre vous et Macaca Édition?
Il y a des liens. Ils font effectivement distribuer par Tribuo. À ma connaissance, il n'y a pas de discussion sur l'intégration au groupe à l'heure actuelle. C'est Timothée et Jalal qui sauront répondre à ça. Je suis pas dans leur cerveau, il se passe trop de choses, de toute façon, dans leur cerveau.
T'es pas dans leur confidence non plus.
Je suis dans une partie de leur confidence quand même, hein, maintenant que je suis directeur général.
Mais il y a effectivement cette intention, du coup, d'aller chercher éventuellement d'autres studios.
Il y a surtout une volonté de pas cramer les étapes, et c'est ce qu'il y a. Ouais. C'est une partie du confort de travail aussi avec Timothée et Jalal. La partie créative humaine avec Timothée, moi, ça me marque super depuis le début. Et Jalal a fait de l'audit au Luxembourg, dans des grosses entreprises. Il y a un peu la sécurité de se dire ce qui est fait et pas fait n'importe comment. On n'a jamais fait les nouveaux riches aller claquer des budgets hors sol pour tenter quelque chose. Donc ça va vraiment se faire step by step. Et ça fait déjà pas mal de nouveautés. On a intégré Banjo, dynamique de groupe. On va déjà consolider en interne parce que c'est quelles sont les synergies entre toutes les entités du groupe avec l'antenne aux États-Unis. Il y a déjà suffisamment de choses à faire maintenant pour se dire aller chercher, se dire allez, on ramène trois studios d'un coup, alors qu'en fait,
ouais,
on vient seulement construire.
Consolider ce qui existe aujourd'hui,
c'est
avant
ça.
D'aller rajouter.
Consolider la première expérience avec François, s'assurer que ça se passe bien, ouais. Que les choses sont faites dans le bon ordre. puis pas bousculer les équipes aussi, parce que comme je vous l'ai dit, l'équipe communication de Blue Orange bosse pour Banjo. Si demain on intègre 3 studios et qu'on leur dit bon, on s'occupe de votre com, bah la charge de travail des gens tout de suite, c'est faut que ça se fasse dans le bon ordre, tranquillement, on fait les choses sereinement. Il n'y a pas de vocation demain de toute façon d'être le nouveau Asmodée, hein, c'est pas l'objet.
Pour se tourner plutôt du côté de vos productions, vous produisez toujours en Chine.
Oui.
C'est toujours le cas pour tous vos jeux?
Majoritairement, oui. Alors, comme tout le monde, hein, on étudie les possibilités de construire, de fabriquer en Europe, en France. La logique, elle reste toujours sur l'export au niveau de Blue Orange. On vend 2 millions de jeux par an. On fait 80% du chiffre à l'international. Donc déjà, avoir la centralité en Chine est logique pour nous. Au niveau du savoir-faire aussi, savoir-faire et compétences sur certains types. Nous, on n'aura jamais le discours trop facile de dire « Made in China, c'est mal » et « Made in France, c'est bien ». Il faut trouver en fait la solution qui convient à tout le monde en termes de délai de production, en termes de coût de production, en termes de qualité de production.
Il me semble que vous essayez de défendre quand même des valeurs parce que vous avez... Oui. Blue Orange, Orange Planet, non,
c'est Cool Planet.
Cool Planet, c'est ça.
Bah, on est une industrie. Le Blue Orange est une industrie de tous les éditeurs. En fait, c'est l'industrie du jeu de société au final. Donc, inévitablement, produire un jeu, c'est polluer. Donc, le questionnement, c'est qu'est-ce qu'on en fait de ça? On sait qu'on pollue. Est-ce qu'il y a le levier d'amélioration sur la production? Donc, nous...
ça, c'est... on va peut-être... Alors, pour ne rien cacher aux auditeurs, reste assez peu de temps. On va avoir les prochains invités qui vont arriver, donc on va essayer d'aller très vite. Sur les parties Cool Planet, tout ça, Timothée nous en avait bien parlé.
Oui.
Mais qu'est-ce qui s'est passé depuis? Moi, je vois quand même que, même si les boîtes continuent à être produites en Chine, je vois qu'il y a quand même des efforts pour essayer de supprimer un peu de cello, des choses comme
c'est
ça.
C'est ça. Nous, voilà, effectivement, nous, par rapport à la production, on continue en Chine, mais on se dit, on va essayer de réduire un maximum les déchets, le plastique qui devient déchet, en fait, voire plastique dans les composants des jeux. Donc, limiter le plastique, c'est... Ben, passer aux inserts en carton, avoir des bandelettes papier autour des decks de cartes, éviter les e-bags, mettre des enveloppes. Alors on a une solution intéressante qu'on a vue sur un de nos jeux qu'on va sortir l'année prochaine. Il commence à y avoir des e-bags un peu opacifiés comme ça, en amidon de quelque chose,
en
amidon de maïs, voilà. Donc tenter des choses comme ça, réduire vraiment ce qui va devenir du déchet, c'est le principal axe.
Peut-être une petite dernière question avant de clore l'interview. Maurice Ledodo était sélectionné à l'As d'or enfant cette année.
Oui, j'avais préparé un super discours avec plein de jeux de mots, j'ai pas pu le faire. C'est ma plus grosse frustration avec la défaite du RC Lens en même temps.
Et puis il est pas trop triste, Maurice?
Eh ben un petit peu, mais ça va, il est sur son île tranquillement, il se dort la pilule, tout va bien.
Ouais, ça va quand même.
Ouais. Non, franchement, nous, on a la chance, enfin c'est pas que de la chance, mais on a la chance d'avoir été nommé à plusieurs reprises, d'avoir remporté le prix plusieurs fois. Donc c'est vrai qu'on a, je pense, moins cette appréhension et cette charge de dire ah, c'est peut-être ma seule chance. On a eu le bonheur, on a eu des désillusions. Maintenant, vraiment, on accueille chaque nomination en mode. C'est cool, c'est une belle mise en avant.
Oui, c'est ça.
Voilà. Si on gagne, c'est tant mieux. Si on gagne pas, c'est vraiment pas grave. Moi, j'étais très content pour Gameflub. Aux nominations, je leur avais directement envoyé un message. Je suis très fan de leur gamme. J'ai offert quasiment tous les livres à mes nièces. Voilà. Je suis content de que ce soit aussi. Faut que des petits puissent gagner aussi. Bon, on n'est pas très gros, mais on est un peu plus gros. Mais voilà, c'est très bien. Nous, on n'aura jamais un coup de gueule en mode c'est un scandale, on n'a pas gagné. C'est une nomination, c'est déjà une victoire.
Oui,
c'est
oui.
Une belle mise en avant. Et au final, dans les trois jeux d'une catégorie, c'est incomparable. Enfin, est-ce que Maurice le Dodo est mieux que Super Miaou ou Puzzle Aventure? C'est trois jeux complètement différents. Les gens vont aimer l'un l'autre, mais c'est comme si je vous demande c'est quoi le meilleur entre la tomate, le concombre et la courgette.
Oh, bah, c'est pas pareil. Non, mais là, faut pas déconner. Alors, c'est évident.
Chacun aura son avis, on est d'accord. Mais fondamentalement, voilà.
Ouais. Ok, très bien.
Super.
Eh bien, merci beaucoup Mathieu pour toutes les réponses que tu as pu apporter à nos questions.
Bah, merci à vous pour l'invitation, toujours un plaisir.
Chères auditrices, chers auditeurs, si cette interview vous a plu, partagez-la sur vos réseaux sociaux favoris. Vous pouvez également nous aider en nous faisant un don. Pour cela, vous trouverez toutes les informations utiles sur la page d'accueil de notre site podcast.proxy-jeu.fr. Proxy avec un I et jeu avec un X. On se retrouve très vite sur Proxy Jeux pour une autre interview ou un autre format. À bientôt et surtout,
jouez bien.